Mondial Sport sur RFI. Martin Guèze.
Mondial Sport, deuxième période, c'est parti. Un coup de sabre et les léopards griffes. La RDC a un nouveau sélectionneur, le français Sébastien De Sabre. Après 24 heures très mouvementées, retour sur cet imbroglio qui se démêle. Réaction au Congo. On continuera ensuite notre rentrée des stades. On rechausse les crampons en Angleterre avec Philippe Auclair et en France avec Simon Bourtembourg. Direction ensuite Cali en Colombie. À la découverte de deux pépites de l'athlétisme de demain, deux champions du monde junior. Le Botswanais Letsile Tebogo et le Français Erwan Konaté. Enfin, entretien avec Massoma Alizada, cycliste afghane de l'équipe des réfugiés aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo, tout juste nommé à la commission des athlètes du CIO Mondial Sport. Vous avez le programme, c'est parti, on file en RDC. Des léopards qui peuvent sabrer le champagne, Sébastien De Sabre est bien leur nouveau sélectionneur. Après avoir entraîné l'Ouganda, mais aussi des clubs comme Pyramids et l'ASEC Mimosa sur le continent, le Français de 46 ans va prendre les rênes de la RDC au terme de 24 heures d'imbroglio, puisque la fédération congolaise avait communiqué sa venue dès hier, un temps qui semble déjà très lointain, où Sébastien De Sabre était encore l'entraîneur de Niort en Ligue 2 française. Il avait d'ailleurs un match à disputer. On revient sur 24 heures de turbulence avec Patrick Juillard, spécialiste du foot africain et consultant de Radio Foot, avec qui on rembobine la machine.
Tout a commencé samedi après-midi avec l'annonce officielle par la Fédération congolaise de football de la nomination de Sébastien De Sabre au poste de sélectionneur des Léopards pour succéder à Hector Cooper. À la grande surprise, le communiqué ne faisait pas du tout mention du fait que Sébastien De Sabre était déjà entraîneur des Chamois Niortais, club de Ligue 2 française qui disputait le soir même la deuxième journée de son championnat. Et ça a beaucoup, suscité des interrogations et la stupeur même à Niort, qui a tout de suite publié un communiqué pour faire part de sa surprise et annoncer qu'il n'avait jamais été contacté dans ces transactions. De Sabre lui-même, après la lourde défaite de son équipe contre Bastia, il n'avait pas à l'époque démenti, donc on se doutait bien que la RDC n'avait pas communiqué à la légère sur sa nomination. Et en fin d'après-midi, ce dimanche, les Chamois Niortais ont annoncé qu'ils se dirigeaient vers une résiliation à l'amiable du contrat de Sébastien De Sabre. Donc tout laisse donc penser que De Sabre va bien être nommé sélectionneur de la RD Congo.
C'est un timing qui peut surprendre, cette annonce de la FECOFA, mais le choix en tout cas de Sébastien De Sabre peut paraître logique quand on sait qu'il a déjà passé pas mal de temps en Afrique et qu'il y avait une volonté de sa part de retourner sur un banc africain.
Oui, tout à fait. Le président de Niort, Michael Hanouna, l'avait lui-même dit qu'il était au courant du désir de Sébastien De Sabre de retrouver une équipe pour jouer la CAN. Oui, il y avait une volonté claire et De Sabre a fait la grande majorité de sa carrière en Afrique. Après, le timing, De Sabre n'en est pas maître. Je pense que Sébastien De Sabre aurait préféré être nommé pendant l'intersaison pour pouvoir quitter les Chamois Niortais proprement et leur laisser la chance de trouver un entraîneur dans les temps. Là, du fait de la fédération congolaise, il va devoir les quitter alors que la saison a déjà commencé. Je pense que lui-même n'en est pas très content. Mais ça, s'il souhaitait vraiment reprendre une sélection en Afrique, il va passer outre et prendre la direction de Kinshasa.
Et direction Kinshasa donc pour Sébastien De Sabre, comme il vient de l'officialiser en l'annonçant sur son compte Twitter. Un retour à un sélectionneur francophone pour les Léopards après l'échec Hector Cooper, l'Argentin qui avait échoué à qualifier la RDC pour le Mondial lors du barrage face au Maroc. Des Congolais qui n'ont pas pris part non plus à la dernière CAN, en difficulté donc depuis le départ de Florent Ibenge en 2019. Au pays, les avis sont divisés quant à l'arrivée de Sébastien De Sabre. Certains auraient préféré un choix plus local. Reportage à Lubumbashi de Pascal Mangala.
Le choix de Sébastien De Sabre serait une sorte de retour à ce qui était devenu presque une authenticité pour le football de RDC, un avis partagé par plusieurs fans des Léopards. Ils évoquent notamment les difficultés de communication qu'aurait connu Hector Cooper, une situation selon eux qui serait l'une des causes majeures de l'échec du coach argentin à la tête de la sélection nationale A de RDC. Éliminé à la porte de la Coupe du Monde alors qu'ils y étaient ou presque, Cooper a surtout laissé les Léopards presque KO aux éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 dernier de leur groupe, 0 points en 2 sorties. Guy Félicien Kalenga est un chroniqueur des sports de Lubumbashi.
Si on peut prendre un sélectionneur qui parle déjà français, je pense que c'est un avantage. En plus de cela, il est quand même passé par des clubs africains, par des sélections africaines. Je trouve que c'est un bon choix pour la fédération congolaise.
Un avis que ne partage pas du tout Deogracias Kamangu, un fan des Léopards.
Ce n'est toujours pas suffisant parce que nous voyons des joueurs peut-être qui évoluent mieux à l'extérieur, mais lorsqu'ils reviennent dans notre pays, ils n'arrivent pas à exploiter leur potentialité. Alors, il faut prendre un entraîneur local qui maîtrise bien le pays, la culture, les extras sportifs. C'est aussi vraiment important pour notre sélection.
Extras sportifs, vous pensez à quoi?
Je pense par exemple à la culture de joueurs, à la tradition congolaise qui maîtrise tous ces paramètres-là pour peut-être espérer mieux dans les jours à venir.
Une expérience déjà vécue par Didier Kanokena, médaillé de bronze avec la RDC à la CAN de Burkina Faso en 1998.
Nous, quand on a fait la CAN 98, on s'était basé avec les entraîneurs congolais. Il y avait Watunda, Mukeba, Mukalai, le Sadissou. Ils se sont débrouillés, ils ont fait les résultats. Ibenge est venu après 98. Il a fait respecter les Congos. La seule chose qui peut nous conduire à faire un bon résultat ou une bonne préparation, c'est seulement l'encadrement.
L'encadrement, c'est notamment les moyens mis en jeu par le gouvernement et la Fédé, qui devraient être bien utilisés, a-t-il soutenu. Sébastien Desabre, à la tête de la sélection nationale A de football de RDC, il n'y voit aucun problème. Beaucoup d'autres Congolais sont d'accord sur un fait, le Congo-Kinshasa ne manque pas du potentiel. Pascal Mwangala, Lubumbashi, RFI.
La RDC de Sébastien Desabre qui affrontera la Mauritanie en septembre lors de la suite des éliminatoires pour la prochaine CAN. Allez, nous, on décolle pour l'Angleterre.
Salut la famille, salut RFI, salut tout le monde. Moi, c'est Diabakolo, je suis à Bimbo, au sud de Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Vraiment, courage au raid de Liverpool sans Mané. Ils ont fait un match nul. Et vraiment, vraiment, courage et avoir la tête haute à Manchester United qui s'est incliné.
Salut RFI Mondial Sports, c'est Odon Lindo depuis la RDC. La saison 2022-2023 des Premier League va être palpitante. On aura des très bons duels partout, du suspense que du régal. La course au titre sera féroce jusqu'au bout en Premier League.
Chers auditeurs, vous voilà comblés, la Première Ligue est bien repartie. Et qui dit Première Ligue anglaise dit Philippe Auclair, notre correspondant dans le pays. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Martin, bonsoir à tous et à toutes. Un plaisir de vous retrouver.
Eh bien, plaisir partagé, évidemment. Un peu moins de plaisir en revanche cet après-midi pour les fans de Manchester United. Hein, en difficulté, seulement sixième l'an passé. Ça ne veut toujours pas, battu d'entrée par Brighton pour la première de Ten Hag en Première Ligue.
Oui, malgré une entame de match qui était plutôt encourageante, une réception très chaleureuse du public d'Old Trafford pour Eric Ten Hag, une équipe de Brighton qui est arrivée, bon, qui est une équipe bien évidemment à prendre très au sérieux, hein, mais qui n'avait jamais gagné à Old Trafford de son histoire, pas seulement l'histoire de la Première Ligue, mais depuis la création du club. Un soleil magnifique, et encore une fois, donc une entame de match qui était plutôt réussie. Et puis en fait, non, très rapidement, les choses se sont déréglées. Et du coup, ce n'était absolument pas une surprise de voir Brighton, en l'occurrence, prendre ses distances avec Manchester United par Pascal Gross et puis ensuite doubler la mise par le même joueur. Ça paraît invraisemblable de dire une chose comme celle-là, dans la mesure où on s'attendait à ce que ce soit le signal du début d'une nouvelle ère enfin à Manchester United. Ça n'a pas été le cas. Ils ont été cueillis à froid et à chaud en même temps, par une très très belle équipe de Brighton. Alors bien évidemment, on va parler du fait que Cristiano Ronaldo était sur le banc, on va en faire des tonnes sur l'absence du Portugais, alors que ce n'est pas véritablement ça le problème. Il avait eu pratiquement pas de pré-saison, il a eu également quelques petits problèmes disciplinaires, on connaît ses envies de départ du club, on sait également que son entraîneur Ten Hag ne serait pas complètement contre le départ de Ronaldo. C'est vraiment le cadet de leurs soucis en ce moment. Il semblerait que ce club ne parvienne pas à se réinventer, à prendre un nouveau départ et que nous soyons partis donc pour cette saison 2022-23, comme nous étions partis pour les débuts de Ralf Rangnick, comme nous étions partis pour les saisons précédentes, à savoir des hauts, des bas, plus de bas que de hauts et encore une fois des espoirs déçus.
Eh ben ça ne va toujours pas pour United, en revanche, ça va toujours bien pour le voisin City, entrant en matière plutôt tranquille pour les tenants du titre, porté par leur recrue, un certain Erling Haaland contre West Ham.
Oui, on avait pas mal critiqué Haaland après le Community Shield, hein, donc le trophée des champions version anglaise que City avait perdu contre Liverpool. où il avait loupé une grosse occasion. Là, on a retrouvé tout simplement le Haaland que l'on connaît, c'est-à-dire avec une capacité d'accélération sur les premiers mètres absolument extraordinaire, d'ailleurs qui est à l'origine du premier but de Manchester City, une accélération qui a mis tout le monde dans le vent. Il est arrivé plus vite sur le ballon que le gardien de West Ham, et en l'occurrence, penalty absolument indiscutable qu'il a lui-même transformé. On a eu la première pause de Yogi, cette fois-ci c'était au London Stadium.
On la connaît bien, oui.
Et puis, ah oui, on la connaît bien. Je pense qu'on va la voir pas mal de fois cette saison. Et puis un deuxième but, beaucoup plus traditionnel, entre guillemets, beaucoup plus classique. Passe de De Bruyne, conclusion de Erling Haaland. Je pense que c'est également une phrase que l'on va dire assez fréquemment cette saison. À un moment, en première période, je vous donne juste ces statistiques, West Ham avait aligné 40 passes. Pendant le même temps, Manchester City en avait aligné 340. Ça vous donne une petite idée de la suprématie tactique et technique des Citizens, alors que l'on jouait sur le terrain de West Ham. Et West Ham, nous l'oublions pas, n'est pas une équipe à prendre à la légère. C'est une équipe qui avait fait une excellente saison en 2021-2022, mais là il n'y avait franchement pas photo. Et avec ce Erling Haaland et avec tous les joueurs toujours qui continuent de composer cet effectif absolument remarquable de Pep Guardiola, vous pouvez déjà inscrire leur nom comme étant parmi les deux favoris ou le favori et demi pour le titre, parce que pour Liverpool par contre ça a été un petit peu plus compliqué.
Exactement, pas encore de suprématie pour les Reds qui de leur côté ont perdu des points d'entrée dans leur duel attendu face à leur duel à distance face à Manchester City, un match nul de partout face à Fulham.
Alors certes, une équipe de Fulham très séduisante l'an dernier, un Alexander Mitrovic qui a marqué 2 buts, donc qui conserve la forme qu'il avait eue la saison précédente quand il avait marqué 43 buts en D2, si vous imaginez, pour Fulham. Mais ce n'est pas que des points que Liverpool a perdu, c'est également Thiago Alcantara, victime d'une blessure à la cuisse. Alors quiconque connaît le parcours de Thiago Alcantara, sait combien il est fragile à ce niveau-là et combien son absence également pèse lorsqu'il n'est pas là sur Liverpool. Et c'est curieux parce que Liverpool avait paru très très affûté lors du Community Shield, et là par contre, il y a eu une baisse, comme une baisse de tension en l'occurrence, qui elle d'ailleurs n'a pas plu du tout à Jurgen Klopp. Alors certes, ils ont sauvé les meubles, Mo Salah était là, et surtout Darwin Núñez, qui a fait une entrée en jeu absolument formidable. Mais Liverpool a paru très en deçà de ce qu'on pouvait attendre d'eux.
Et finalement, Philippe, il fallait peut-être supporter un favori londonien ce week-end. Les clubs de la capitale qui ont bien débuté, que ce soit Arsenal, Tottenham ou Chelsea.
Oui, Chelsea, pas flamboyant, mais qui a produit le service minimum et qui en a été récompensé à Everton sur un pénalty de Jorginho, une fois de plus. Un but à zéro, ça suffit. Donc 3 points dans l'escarcelle de Thomas Tuchel. En plus de ça, il y a sans doute de nouveaux joueurs qui vont arriver à Chelsea avant la fin du mois d'août, avant la fin de ce mercato. Attendez-vous à ce que Chelsea continue sur la voie qu'ils avaient tracée l'année dernière. Du côté de Tottenham, qui s'est fait un tout petit peu peur pendant environ 10 minutes en se faisant mener au score par Southampton, ça a été exactement ce qu'on attendait. Non, même pas le temps d'avoir peur. Et de toute façon, cette équipe de Tottenham est une candidate très, très sérieuse au top 4. Quand on voit le recrutement, c'est assez impressionnant. De la part de Richarlison, par exemple, Bissouma, Perisic. C'est une équipe qui s'est renforcée très, très fortement durant ce mercato, avec un Antonio Conte qui paraît bien dans sa peau, bien sur son banc, et une équipe de Tottenham redoutable, à mon sens. Une victoire totalement attendue, mais je crois que cette année, Tottenham aura beaucoup de ses victoires attendues, partira favori de beaucoup, beaucoup de rencontres, et il a très, très sérieux au top 4, mais également comme leurs voisins du nord de Londres, Arsenal, qui ont été plus que convaincants à Crystal Palace.
Et oui, Arsenal, justement, qui s'est imposé 2-0 en ouverture à Crystal Palace. On vous souhaite une excellente soirée à Londres, Philippe Auclair. On rentre à Paris. Retour à Paris, donc, et retour en studio avec le plus bel jeu des journalistes français. J'ai nommé Simon Bourtembourg. Bonsoir Simon.
Bonsoir Martin, bonsoir à tous.
Alors vous avez fait vous aussi votre rentrée avec vos petits stylos, une rentrée française pour nous parler de la Ligue 1. Et honneur aux champions, le PSG qui a cartonné, Paris déjà devant au classement.
Oui, c'est ça, Paris qui enregistre sa plus large victoire en ouverture d'une saison de Ligue 1. 5-0, score final face à Clermont. Les champions en titre, vous le disiez, ont pu compter sur un duo Neymar-Messi étincelant. Le Brésilien a donné le ton d'entrée en ouvrant le score. Il a été très à l'aise techniquement. Il a revêtu aussi le costume de distributeur de caviar. 3 passes décisives au total, dont un service dans la profondeur pour le Marocain Achraf Hakimi, qui est aussi allé de son petit but. Et comment ne pas parler de Lionel Messi, grand artisan de la Manita parisienne. parisienne. 2 buts pour l'ancien Barcelonais, dont un retourné acrobatique délicieux en fin de partie. Christophe Galtier, le coach du PSG, impressionné par son Léo. Il promet que l'Argentin est de retour après une première saison parisienne difficile.
Léo, ça fait 17 ans qu'il joue au très haut niveau. Il a eu une saison un peu difficile la saison dernière. Il fallait s'acclimater, il y a un changement de vie radical. Mais toutes les saisons auparavant, c'était au minimum 30 buts. À partir du moment où il a fait une préparation complète, qu'il a ses repères à la fois au niveau de sa vie familiale, mais au niveau aussi de son club, de l'équipe, de ses partenaires, il n'y a aucune raison que Léo ne fasse pas une grande saison. Voilà. Et quand il sera évidemment associé à Kylian, il y aura encore beaucoup plus de pouvoir offensif.
Kylian Mbappé absent ce samedi contre Clermont à cause d'une gêne aux adducteurs. Christophe Galtier a assuré que le champion du monde sera de retour pour le prochain match du PSG. Ce sera face à Montpellier.
Et Simon, une autre victoire pour la reprise de la Ligue 1, un peu plus difficile, c'est celle de l'Olympique Lyonnais.
C'est ça, moins séduisante, moins rassurante que la victoire du PSG. Mais victoire tout de même, les Gaunes se sont imposés 2-1 face aux promus d'Ajaccio. On a eu l'impression de retrouver les Lyonnais d'il y a quelques saisons. D'abord avec une nouvelle saison sortie dangereuse du gardien Anthony Lopez, exclu à la 30e minute. Et puis, grâce à un revenant, Alexandre Lacazette, buteur pour le grand retour dans son jardin 5 ans après son départ à Arsenal. Avec le brassard de capitaine, l'attaquant s'est évidemment imposé en meneur d'homme. Tout au long du match, il n'a pas hésité à haranguer ses coéquipiers. Petite voix donc pour faire part de son grand plaisir de retrouver ses supporters lyonnais.
J'ai eu pas mal de pression, pour être honnête. Mais après, dès que je me suis lancé, tout allait... Je me suis senti libéré pour marquer. Je suis content de retrouver le public. J'ai bien apprécié leur accueil et la performance de l'équipe aussi. On a gagné. Forcément, on peut encore mieux faire, mais c'est déjà bien de repartir avec les 3 points dès le premier match. On a une belle marge de progression, c'est de savoir gérer les temps faibles et être meilleur quand l'équipe souffre aussi. Donc cette deuxième mi-temps nous fera du bien à la suite.
Les Lyonnais qui vont pouvoir se concentrer sur la Ligue 1 puisqu'ils ne se sont qualifiés pour aucune compétition européenne.
Et eux qui prendront bien part à la Ligue des Champions, ce sont les Marseillais. Ils se sont imposés tout à l'heure 4-1 face à Reims.
Oui, l'OM d'Igor Tudor qui se rassure après des matchs amicaux compliqués. Pas de vague pour Chancel Mbemba qui faisait ses débuts en Ligue 1. En revanche, premier but pour son compère en défense Nuno Tavares. L'international colombien Luis Suarez, également arrivé cet été, a lui inscrit un doublé de bon augure pour Valentin Rongier.
Tout n'est pas parfait, mais on va pas faire les difficiles. Gagner comme ça devant notre public pour la première journée, c'est ce qu'il fallait faire. Et en tout cas, aujourd'hui, on est très content que l'effectif se renforce avec des joueurs de très grande qualité. Et ils l'ont montré ce soir. C'est super bien que tout le monde puisse apporter à cette équipe parce que cette saison, elle va être longue. On va avoir besoin de tout le monde.
À noter aussi dans ce match la 300e de Dimitri Payet sous le maillot olympien.
Et bien merci beaucoup, Simon Bourtembourg, pour votre rentrée. On vous laisse partir en vacances. Je ne sais pas si vous allez en Colombie, mais nous, on file à Cali.
Tobogo in the middle, it's Tobogo, he's turning round, he's celebrating, he's pointing the finger at Nkrumah.
Totalement décontracté, une insolente facilité, non ce n'est plus Usain Bolt, mais ça y ressemble. Voici Letsile Tebogo, le Botswanais de 19 ans, était l'une des stars des mondiaux d'athlétisme junior à Cali en Colombie. En argent sur le 200 mètres, mais surtout titré sur la ligne droite, 100 mètres, donc avalé en 9 secondes 91, le tout en relâchant sur la fin et en jetant même un regard rieur à la concurrence. De l'arrogance, pas du tout, répond Letsile Tebogo, c'est du spectacle.
Tout est question de confiance en soi. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai intimidés pour qu'ils aient peur de moi. Comme ça, j'ai couru sans aucune pression. L'objectif, c'était de prendre du plaisir et faire en sorte que les gens chez eux apprécient de regarder de l'athlétisme. J'ai fait de mon mieux. Le record du monde ne faisait pas partie du plan, mais c'est arrivé. Ce ne sont pas des choses auxquelles vous pensez. Elles viennent naturellement.
Tebogo qui parle aussi vite qu'il ne court, le supersonique botswanais qu'on devrait bientôt revoir chez les grands. Un autre qu'on va suivre ces prochaines années, c'est le français Erwan Konaté, 19 ans, lui aussi déjà double champion du monde junior à la longueur. 8m12 l'an passé à Nairobi, 8m8 cette fois-ci à Cali. Même si le jeune homme n'ira pas à Munich pour les championnats d'Europe senior la semaine prochaine, ça ne lui enlève pas son beau sourire qui s'entend dans sa voix au micro d'Hugo Mosseni.
Une immense fierté pour moi d'avoir représenté la France et d'avoir donné la plus belle des médailles. Très grande fierté pour moi et pour tous mes proches, donc c'est que du bonheur et que du positif.
On dit que vous êtes particulièrement rapide et puissant. Est-ce que ce sont, selon vous, les deux qualités principales pour votre discipline, le saut en longueur ?
Pour moi, c'est vraiment les qualités sur lesquelles je m'appuie pour pouvoir sauter 8 mètres et pouvoir gagner un titre mondial. Donc pour moi, ouais, c'est les deux principaux avantages que j'ai.
Alors, on va parler un petit peu de votre famille, de votre background, si je puis dire. Votre talent, il ne vient pas de nulle part. Votre papa, Ladji Konaté, il sautait loin lui aussi. Double médaillé au championnat d'Afrique d'athlétisme avec le Sénégal. Deux médailles de bronze obtenues en triple saut. A-t-il été tout simplement une source d'inspiration, votre papa ?
Clairement, pour moi, ça a été une source d'inspiration parce que grâce à l'athlète et grâce à ce qu'il a fait, ça lui a permis de venir en France et de surtout rencontrer ma mère. Donc pour moi, je me suis dit, pourquoi pas faire la même si c'est pour avoir la même vie. Donc ouais, non, ça a été une source d'inspiration pour moi parce qu'il est parti entre guillemets de rien, parce que le Sénégal, même quand on est fils d'un général de militaire, c'est quand même pas la grande richesse. Ça a vraiment été une carrière exceptionnelle pour lui, et de venir en France, c'était un des seuls de la famille. Donc ouais, c'est vraiment une source d'inspiration et ça me donne envie de réussir autant qu'il l'a fait.
Est-ce que d'un point de vue technique aussi, ça a été important d'avoir un papa athlète également ?
Peut-être dans ma jeunesse, je ne me rappelle plus trop, mais je ne sais pas pourquoi j'ai jamais aimé que mes parents me coachent. Donc je pense que c'était vraiment c'est plus l'histoire qui me touchait et qui m'inspirait. Donc à chaque fois, en plus que je suis en championnat, je me répétais ça, je m'en rappelle très bien lors de mon premier titre mondial. Je me disais, je ne peux pas ne pas gagner parce qu'elle a fait tellement, tellement pour lui, pour sa famille et pour son pays d'origine que tu es obligé de faire au minimum la même chose. Et donc, ça a vraiment été une source de puissance, on va dire, d'avoir un père qui a réussi autant dans l'athlétisme.
Vous n'êtes pas qu'un athlète, vous ne faites pas que sauter dans la vie. On l'a notamment lu dans les pages du journal L'Équipe. Vous êtes étudiant en école de commerce, vous faites un peu de mannequinat en plus du saut en longueur. C'est important d'avoir aussi les pieds, si je puis dire, pas seulement sur la piste, mais aussi dans d'autres domaines. Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir d'autres champs de discipline, si je puis dire, dans lesquels vous exprimez ?
Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important parce que on n'a qu'une vie et j'ai envie de la vivre au maximum possible. J'ai envie d'avoir plusieurs vies dans une vie, même si c'est compliqué. Mais pour moi, c'est important parce que ce soit le mannequinat, pour moi, c'est un milieu qui m'a toujours attiré. J'ai toujours voulu faire partie de ce milieu. Pour moi, c'est un monde, on va dire, un peu irréel, un peu déconnecté de la vie normale. Après, l'école, pour moi, ça a toujours été important et surtout pour ma famille. Donc, j'ai toujours voulu aspirer au meilleur. Maintenant, je suis en école de commerce et elle fait partie du top 5 français, une des meilleures mondiales. Donc, c'est pour moi une super fierté, une super grande fierté. Donc, j'ai essayé vraiment d'être le meilleur possible à l'école et de pouvoir réussir dans tous les domaines et surtout pour avoir des bagages parce que les blessures, ça peut arriver du jour au lendemain. J'aime bien avoir un plan ABC.
Pas tous les œufs dans le même panier, si je comprends bien. On va revenir aux sportifs et parler de la suite pour vous, Erwan Konaté, puisque vous ne disputerez pas les championnats d'Europe à Munich. Alors, on imagine que c'est une déception, mais le grand objectif, ce sera les Jeux de Paris en 2024. On peut voir les choses comme ça.
C'est une petite défaite pour moi. Et ça va me permettre de rebondir fort et d'avoir cette rage en moi, de ne pas être allé au championnat d'Europe et vraiment tout contenir en moi et tout exploser sur les compétitions qui arrivent. Et oui, bien sûr, l'objectif est clair, c'est les JO. C'est pour ça que je voulais faire aussi les Europes pour pouvoir me confronter aux grands. Parce que c'est bien beau les championnats du monde, mais les JO, ça arrive dans un an et demi, un peu plus. Et pour moi, j'ai vraiment envie d'être là et d'être présent pour la France, et d'autant plus que ça se déroule à Paris.
Eh bien, rendez-vous est pris pour Paris, pour Erwan Konaté en 2024, où il pourrait retrouver Massoma Alizada. Massoma Alizada est une cycliste afghane de 26 ans. Elle a pris part l'an passé aux Jeux de Tokyo sous la bannière de l'équipe des réfugiés. Et la voilà depuis quelques jours, membre de la commission des athlètes du CIO, le Comité international olympique, qu'elle a intégré en même temps qu'une certaine Alison Félix, excusez du peu. La jeune afghane qui a rejoint la France en 2017, elle maîtrise d'ailleurs très bien le français, elle nous a confié sa fierté, ses espoirs, entretien avec cette porte-drapeau des réfugiés et des femmes afghanes qu'elle entend représenter.
C'était quelque chose d'imprévu et j'ai jamais imaginé que peut-être un jour, moi, je pourrais entrer dans la commission des athlètes. Quand elle m'a annoncé que je suis sélectionnée par le président de CIO, ils étaient surpris, choqués. Ils étaient tellement contentes. Peut-être je pourrais envoyer un message d'espoir pour tous les réfugiés autour de moi. J'étais plus contente pour ça.
Justement, vous êtes la toute première athlète de l'équipe des réfugiés avoir été nommé au sein de cette commission. C'est important, c'est même très important que ces réfugiés aient une voix dans cette organisation.
Exactement, c'est hyper important parce que, comme vous savez, à cause de la guerre, à cause de leurs problèmes, il y avait récemment beaucoup de problèmes pour différents pays comme Afghanistan, Ukraine. Du coup, il y avait beaucoup de gens qu'ils ont forcés, obligés de quitter leur pays. Un comité international a décidé d'organiser une équipe de réfugiés pour permettre aux réfugiés de participer aux Jeux Olympiques. Donc, un membre pour la commission des athlètes, c'est important parce qu'eux, elles présentent les réfugiés dans le monde, 82 millions de réfugiés. Donc, entre 82 millions de réfugiés, il y a beaucoup d'athlètes. Donc, d'être la voix pour eux, c'est hyper important en ce moment. Je suis plus concentrée sur mon impact, mon travail. Est-ce que je pourrais être positive pour tout le monde et surtout pour les athlètes réfugiés et surtout pour les femmes? Après ce qui est arrivé en Afghanistan, ils n'ont plus le droit de faire du sport. Avec tout ça, j'espère que mon nomination, ça pourrait servir à quelque chose et ça pourrait aider à avancer la cause des femmes en Afghanistan et pour les réfugiés autour de moi.
Justement, vous parlez de l'Afghanistan, votre pays. Vous représentez l'équipe des réfugiés, mais vous êtes aussi finalement un visage libre pour les femmes afghanes. On suppose que c'est forcément très important pour vous dans un moment où les droits des femmes sont en net recul dans votre pays, où elles ne peuvent plus circuler librement ni travailler, par exemple.
Exactement, comme le Taliban, elle veut par exemple créer des problèmes pour les femmes, de leur pas laisser d'avancer ou progresser, mais on voit que dès qu'il y a femmes qui sont sorties de pays, elles ont droit, elles montrent que vous n'avez pas nous laisser de progresser, mais nous, dès qu'on arrive dans un pays libre, on essaye de travailler, on avance, elles n'arrêtent pas. Elle n'abandonne pas, elle essaye de faire quelque chose peut-être en cachet ou à leur maison, mais elle n'accepte pas l'échec de les cours à la maison, elle fait le sport en cachet, mais elle essaye de continuer parce qu'eux, elles ont l'espoir. Moi aussi, un jour, j'étais en Afghanistan, je faisais du vélo et il y avait beaucoup de problèmes pour les filles qui faisaient du vélo en Afghanistan. Il y avait plus les gens qui ne voulaient pas accepter les filles sur le vélo. C'était à cause de la Taliban parce que la Taliban, elles disaient que les femmes qui font du vélo, les femmes qui font du travail, qui font des études, elles ne sont pas des bonnes femmes. C'est des mauvaises femmes, des mauvais exemples pour les autres femmes. Mais je continue à faire ça et je pense que je pourrais être un bon exemple pour eux. Donc, il y avait des gens qui ne voulaient pas accepter. Ils nous créaient des problèmes, ils voulaient nous embêter, nous insulter, nous frapper. Mais comme moi, mon objectif, c'était toujours de normaliser le vélo pour les femmes en Afghanistan, j'ai continué parce que moi, je faisais le vélo et je ne voyais aucun mal. Après, à cause de ça, ça m'a mis en danger, ça m'a obligée de quitter l'Afghanistan et de venir en France. Et je suis venue avec ma famille en 2017, mais j'ai quand même continué à faire du vélo en France. J'ai participé en compétition dans les courses locales. En même temps, j'ai continué mes études. J'ai appris la langue française et je fais les études en génie civil. Et je viens de terminer ma troisième année en génie civil. Et pour l'année prochaine, je ferai le master en génie civil.
On imagine que vous qui avez goûté aux Jeux de Tokyo, les Jeux de Paris de 2024, forcément, ça doit vous faire rêver.
En fait, pour l'instant, je me concentre ça fait depuis que je suis rentrée de la Jeux Olympiques 2020. Je me disais que je me concentre pour un an sur mes études. Après, je me qualifie pour le master. Dès que je qualifie, je vais reprendre le vélo. Et ça fait à peu près un mois que j'ai repris le vélo et je me prépare pour le championnat d'Afghanistan qui va organiser en 23 octobre en Suisse. Donc, je me prépare pour cette course et pour les Jeux Olympiques. Comme ça, ces courses-là qui me préparent pour le Jeux Olympiques 2024, mais j'espère bien que je pourrai participer pour les Jeux 2024. C'est le Comité international olympique qui va décider qui va, qui va pas, mais j'espère bien que je vais continuer à faire du vélo, s'entraîner régulièrement, et j'espère que je vais sélectionner.
Et ben, on vous souhaite bonne route, Massoma.
Merci.
Et voilà, c'est avec le sourire de Massoma Alizada que se termine cette émission. Merci à Raphaël Bellon à la réalisation. Demain, Radio Foot revient avec Annie Gasnier. Et la semaine prochaine, Sarah Loubacouche sera derrière le micro de Mondial Sport. Bonne nuit à tous.